Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Seigneur, ce n'est pas du théâtre qu'on veut, ce n'est pas juste faire un culte, mais c'est t'offrir nos vies, c'est te louer, c'est t'adorer, c'est accueillir ta présence et l'action de ta présence. Parce que quand tu es là, tu agis. Et Seigneur, on veut ce matin vraiment pas juste croire que tu peux, mais on veut saisir, c'est que tu vas faire ces choses. Tu vas amener cette libération, cette consolation, ce qui a été proclamé, Seigneur, dans ce chant, dans ces paroles. Seigneur, tu es en train de faire une œuvre, tu es en train de toucher des cœurs, tu es en train d'amener un avant et un après dans la vie de plusieurs. Un avant et un après dans la vie de plusieurs aujourd'hui, au nom de Jésus. Parce que celui qui agit, tu agissais hier, tu agissais dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, Jésus. Les choses se passaient et tu es le même aujourd'hui, où tu transformes les vies, où il y a un avant et un après. Et nous saisissons, Seigneur, ces paroles. Nous saisissons, Seigneur, ce que tu es en train de faire aujourd'hui et ce que tu vas faire encore. Alléluia. Amen. Amen. Merci à toute l'équipe Louange de nous avoir conduits dans cette présence de Dieu. Alléluia. Je vais simplement laisser la place à Diane qui va nous partager son cœur ce matin.
Alors bonjour à chacun, ceux que je n'ai pas encore salués de proche. Donc je le fais de loin, on pourra se faire un bisou tout après. Pour moi c'est un privilège de pouvoir partager le message aujourd'hui parce que ça fait quand même, on a calculé avec David, je crois 6 mois que je n'ai pas prêché. Donc j'ai vraiment de la joie d'être ici et de vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Il y a maintenant une semaine, le week-end passé, on a pu fêter la Pâque. C'était vraiment l'occasion de se souvenir de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, que Jésus s'est donné pour nous sauver. Ce n'est pas simplement les lapins, les œufs qu'on a pu découvrir à la Coop, au Lidl ou à quoi que ce soit ou ailleurs, mais c'est vraiment ce sacrifice de Jésus qu'on a pu fêter ensemble, qu'on a pu fêter dans nos familles, qu'on a pu fêter peut-être ailleurs dans d'autres cultes. Il a versé son sang pour couvrir nos péchés et les effacer à ce moment-là. Il a porté nos souffrances, nos maladies pour guérir nos cœurs, mais aussi nos corps. Il a aussi eu la victoire sur la puissance de la mort, sur les autorités, les puissances mauvaises, en revenant à la vie et en ressuscitant. Et c'est ça la Pâque, c'est vraiment ça la Pâque. Et la Bible est claire encore aujourd'hui. Jésus est tout puissant pour nous sauver, nous guérir, nous délivrer de l'oppression et ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on se réunit chaque dimanche pour se remémorer de cette résurrection que Jésus a vécue, cette victoire à la croix face à la mort. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse porter nos regards sur Jésus et qu'on puisse voir ce qu'il veut nous dire. Yes, ça fonctionne. C'est un peu une expression qu'on utilise souvent. Tu vois ce que je veux te dire ? Ou autrement dit, tu comprends ce que je veux te dire ? Tu as la vision ? J'ai l'intime vraiment conviction ce matin que Dieu a l'intention de toucher notre vision. Quand la Bible nous dit qu'il est venu pour guérir les aveugles, alors il l'a fait quand il était en mission sur Terre, de manière physique, réellement. Il le fait encore aujourd'hui. Des aveugles voient vraiment ceux qui sont malades au niveau des yeux. Mais il le fait aussi d'une manière figurée. Et Dieu aimerait affiner, ajuster ou même corriger notre capacité à voir afin de comprendre ce qu'il veut nous dire. Il désire ouvrir les yeux de nos cœurs qui parfois sont fermés. Il veut nous donner la capacité de voir spirituellement pour percevoir au-delà des apparences. Et j'aimerais prendre avec vous quelques passages de la Bible, peut-être que vous les connaissez bien, mais qui nous parlent de ses disciples qui ont suivi Jésus et de leur capacité à percevoir d'une manière spirituelle ce que Jésus enseignait, démontrait dans le monde physique. Alors pendant 3 ans, les disciples ont eu la joie, la chance, en quelque sorte, de faire partie de l'école où Jésus, le Messie, était le maître. Il a été un maître exceptionnel. Jésus a enseigné à partir de la Bible avec des explications claires sur ses réalités, justement, spirituelles. Il a aussi enseigné sur le cœur de l'être humain, sur le pardon, sur l'humilité, sur la justice, sur la foi, sur l'amour, et bien plus encore. Il vous suffit simplement de prendre la Bible et de l'ouvrir pour découvrir tous ces enseignements. Mais il n'est pas resté sur une approche théorique, c'est ça qui est super. Il a aussi démontré la véracité de ses enseignements en démontrant la puissance de Dieu au travers de la prière, qui ont libéré des miracles, de la multiplication de nourriture, transformation de l'eau en vin, la guérison, des délivrances. Les disciples ont pu entendre parler, mais aussi leurs yeux ont pu voir. Puis Jésus les a qualifiés par une impartition du Saint-Esprit pour qu'ils puissent eux-mêmes expérimenter en témoignant de ce qu'ils ont entendu et de ce qu'ils ont vu, et même aussi en priant eux-mêmes pour ceux qui en avaient besoin. Et voici ce que les disciples ont dit après leur entre guillemets, camp de formation. Dans Luc 11, verset 17, quand les 70 disciples reviennent, ils étaient pleins de joie. « Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur ordonnons de partir en ton nom. » Dans l'école de Jésus, c'est l'éclate. Il y a de la joie. Il y a la possibilité d'entendre, de comprendre, de voir, d'expérimenter, de s'impliquer. Waouh, quelle pédagogie quand même! Quelle joie ils ont pu vivre en direct, en voyant la manifestation de la puissance de Dieu. Ces versets qu'on vient de lire en témoignent vraiment. Dans cette vie intense d'expérience et d'enseignement, toutefois, j'ai été frappée dans certains textes de la Bible que les disciples ont manqué de compréhension parfois à ce que Jésus donnait comme enseignement. Le raisonnement était un petit peu des fois à côté de la plaque. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à voir ce que Jésus voulait leur expliquer. D'ailleurs, très régulièrement, Jésus est en train de répéter, de reformuler, d'expliquer à nouveau, mais ils ne comprennent toujours pas ce qui se passe, ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent. Ils n'avaient comme pas la même vision, la même perception ou même la même logique que Jésus. Et j'ai pris quelques situations, trois situations, pour en parler ce matin. Où Jésus conduit les disciples à avoir, une autre vision sur les événements. Dans Matthieu 19, nous lisons que les disciples renvoient les enfants qui étaient attroupés vers Jésus. « Ouais, Jésus est là !» Ils sont tout autour. Et les disciples, quelle réaction ils ont eu? Ils ont dit « S'il vous plaît, prenez vos distances. » Pourquoi ils avaient cette réaction? Parce qu'ils avaient la vision culturelle, une vision culturelle. Dans le peuple juif, les enfants sont une réelle bénédiction. Mais ils sont enseignés au sein de la famille. Ils ne sont pas encore à l'âge de bénéficier de l'enseignement d'un rabbi, d'un maître de la loi comme Jésus. La présence de ces enfants vers Jésus n'était pas une priorité pour les disciples, une priorité spirituelle immédiate. Et d'ailleurs, je pense aussi que les disciples ont voulu préserver Jésus par rapport au fait qu'il avait aussi beaucoup, beaucoup de foule autour de lui et encore ses enfants qui viennent s'amasser vers lui. Et c'est avec cette vision culturelle d'éducation qu'ils ont voulu renvoyer les enfants loin de Jésus. Mais Jésus a une toute autre vision. Il va prendre les enfants comme modèle spirituel. Il dit dans Matthieu 19, 14... « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Jésus, il est en train de dire « Hé !» à ses disciples. Il les interpelle, il les enseigne sur la valeur et le modèle que les enfants sont. Prenez exemple sur eux. Et par après, on voit aussi qu'il a pu prier pour ses enfants. Donc, il les considère. Puis j'ai un autre passage dans Marc 6 où Jésus prêche pendant plusieurs heures à une grande foule. On dit 5000 hommes, donc il y avait des femmes et des enfants, donc ça fait bien plus de monde qui était rassemblé là. Le temps passe et les gens ont besoin de manger. Les disciples interpellent Jésus pour qu'il renvoie les personnes, ces gens, pour qu'ils puissent chercher à manger dans les villages environnants, parce qu'en fait, ils étaient placés dans un espace où c'était assez désertique, il n'y avait pas de quoi se nourrir. Ils ont la vision de la réalité. Une heure tardive, une foule qui a faim, des villages éloignés pour se procurer à manger. Jésus leur dit, mais alors donnez-leur à vous-même à manger. Et là, encore une fois, une vision au premier degré. Les disciples imaginent devoir acheter à manger pour tout le monde. Verset 37. Est-ce que nous devons aller acheter du pain pour 200 pièces d'argent ? Pour eux, c'était une folie. Ils ont tout quitté, leur richesse et tout. Puis Dieu leur demande de leur donner à manger, mais ils n'ont pas d'argent. Ils calculent vraiment la dépense. Et je suis sûre qu'ils étaient un petit peu déboussolés par rapport aux réponses que Jésus leur donne. Mais dans le texte, Jésus leur dit, mais non, allez chercher ce que vous avez déjà. Et qu'est-ce qu'ils ramènent ? Vous connaissez sûrement le texte. 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas énorme pour 5000 personnes, voire plus, les enfants, les femmes. Et là, un miracle inimaginable s'est passé. Une énorme multiplication. Depuis 5 pains et 2 poissons, tous ont été nourris et bien au-delà. Ils ont encore remporté des paniers remplis. Jésus avait la vision de la providence divine. Et là encore, les disciples, ils n'arrivaient pas à imaginer ce qui allait se passer. Une multiplication de nourriture. Et pour finir, dans Jean 20, alors que les explications de Jésus avaient été très claires à ses disciples sur sa mort future, sur sa résurrection, on peut voir que le disciple Thomas, qui avait tout entendu, n'a pas réalisé sur le moment, quand il a rencontré Jésus ressuscité en chair et en os devant lui, il a été confondu, il ne l'a pas reconnu. Alors Jésus l'a invité à le toucher pour prendre conscience que ce qu'il a entendu et ce qu'il est en train de voir maintenant, c'est une réalité. Et à ce moment-là, ses yeux se sont ouverts et il a pu croire. Dans Jean 20, verset 27, Jésus lui dit, « Mais avance Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Mets ta main sur mon côté, là où il a été transpercé. Hein. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Dans d'autres passages de la Bible, Jésus amène des enseignements avec des images tirées de la pêche, de la nature, afin que ses disciples puissent vraiment saisir et voir les réalités spirituelles qui ne sont pas simples à comprendre. Jésus s'adapte vraiment à la compréhension et au vécu de ses disciples pour les rejoindre. Mais là encore, j'allais dire, tout n'est pas compréhensible si l'on prend au sens propre les images que Jésus utilise. D'ailleurs, Jésus explique qu'il prend des paraboles parce que, en voyant, les disciples ne voient rien et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent. Ils sont comme aveuglés spirituellement. Et il redira encore plus tard, « Pourquoi raisonnez-vous, ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore ?» Pourtant, il a expliqué Jésus, et encore expliqué, il a démontré, « Avez-vous encore le cœur endurci ? Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. » C'est comme si Jésus il parle de choses qui sont là-haut et puis que les disciples ils ont une vision de ce qui est là en bas. Ils n'arrivent pas à voir ce que lui il veut leur dire concernant des réalités qui ne sont pas visibles aux yeux humains mais qui sont dans le monde surnaturel. Ils ont encore le cœur endurci qui bloque cette perception, leur perception. Mais Jésus les invite à faire une percée pour voir au-delà des apparences. J'ai été frappée par une parabole que Jésus a apportée à ses disciples et j'aimerais la prendre avec vous. Elle est dans Matthieu 13, versets 31-32. Cette parabole m'a frappée par son irréalisme. C'est bizarre parce que je me suis dit, mais ce qu'il dit Jésus, ce n'est pas du tout réel. Il explique ceci, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est là la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Moi, je me dis, mais au-delà de ce que ce passage interpelle la graine, c'est comme la foi, l'arbre, c'est le royaume de Dieu. Moi, je trouve bizarre cette similitude, enfin, ce qu'il explique, il dit qu'une mini graine de grain de moutarde pourrait devenir un arbre. Peut devenir un arbre. Mais ce n'est pas du tout conforme à notre réalité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des champs de moutarde, de grains de moutarde qui ont poussé. C'est un peu comme le colza, ça nous va jusqu'à la taille. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est quand même Jésus qui parle, là. Il ne raconte pas des mensonges. Donc, en fait, je suis allée voir dans des commentaires et là, il disait que les grains de moutarde pouvaient, à l'époque, parfois, grandir jusqu'à 3 mètres et étaient comparés à l'ombrage d'un arbre. Alors, je crois que par ce passage, Dieu veut vraiment aussi ébranler nos raisonnements, comme il le fait des fois avec les disciples. Il utilise une hyperbole, ça veut dire qu'il prend du tout petit pour, en comparaison avec un tout grand. On parle aussi de petites graines de foi qui déplacent les montagnes, c'est un truc de fou, c'est une telle différence de grandeur et de possibilité, parce qu'il désire nous montrer que des choses insignifiantes, comme ces petites graines de moutarde, une chose grande peuvent arriver, en sortir avec Dieu. Avec Dieu, il y a la capacité de transformer au-delà des lois naturelles. Et comme il l'a fait pour ses disciples, Jésus aimerait nous accompagner pour nous faire entrer dans une perception nouvelle, pour que nous comprenions les réalités du monde spirituel. Et le message de Dieu pour nous aujourd'hui, je crois, c'est qu'il nous invite à nous laisser toucher dans le cœur. Et c'est fou, c'était vraiment cet appel-là qui a été lancé aussi durant la louange. Notre cœur, pour nous donner aussi cette capacité nouvelle de voir avec clarté. Quand tu lis la Bible, pour comprendre ce que tu lis, quand tu l'écoutes dans ta prière, que tu puisses entendre, voir même spirituellement. Et c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'il veut nous donner d'arriver à croire, c'est-à-dire aussi de percevoir spirituellement les choses, pour pouvoir voir l'accomplissement sur cette terre dans notre réalité humaine. Comme pour la graine de moutarde qui a grandi à hauteur d'un arbre, ça, Jésus nous dit aujourd'hui, sache que je peux faire grandir, que je peux multiplier, que je peux faire fructifier bien plus que ce que tu imagines. Je veux te faire sortir de tes ornières, de ta petitesse. Je veux guérir les yeux de ton cœur pour te donner la capacité de voir par la foi. Et là, permettez-moi de vous partager un témoignage personnel où j'ai réalisé que, comme les disciples, j'étais complètement à côté de la plaque. J'avais pourtant des bonnes intentions, je vais vous expliquer comment. Dieu est venu me rejoindre en touchant ma perception et ma vision alors qu'on était dans une retraite spirituelle au début de l'année avec David. On était à Mulhouse dans une église. Ils organisent une semaine de prière et de jeûne. Il y a 3 réunions par jour. Et nous y sommes allés. Ce témoignage, je l'ai déjà partagé à l'une ou l'autre personne, mais certains ne l'ont pas entendu et je me dis, c'est quand même important que je vous le transmette à d'autres parce qu'il illustre vraiment cette capacité de voir humainement les choses. Et parfois, cette capacité-là nous empêche de voir comme Dieu voit les choses. Et juste avant de commencer la retraite, j'étais au culte, ici, à Neuchâtel. Et j'étais en charge des enfants. Donc, quand on a les enfants, souvent, on se tient à l'arrière de la salle. 2 chants de louanges se chantent. Et les enfants nous rejoignent après ces 2 chants et on monte à l'étage. Et lorsqu'il y avait ce temps de louange, je regardais l'église et la salle était, on va dire, il y avait pas mal de chaises vides. Je suis restée avec cette image dans ma tête et arrivée à Mulhouse, louange, on lève les bras, on est vers le Seigneur, je décroche de l'église et voilà que me revient en flash la réunion du dimanche d'avant. Et là, je me suis dit, Diane, arrête avec tes pensées maintenant, concentre-toi sur Dieu, c'est ton temps pour toi, pour lui, ne réfléchis pas à l'église, dépose ça au Seigneur. Mais cette pensée est restée dans ma tête tout le temps. Et là, j'ai dit, Seigneur, ça commence à me stresser, j'ai commencé à sentir des peurs par rapport à ces chaises vides. Il y avait des gens qui étaient là, mais pas énormément. Alors je me suis dit, non, mais Diane, tu ne vas pas commencer à être cette personne qui compte les chaises vides et puis qui regarde les gens qui sont là, puis d'être contrôle comme ça. Je refuse, je refuse, je refuse. Et là, je me suis dit, ok, concentre-toi sur Dieu. Je reprends un chant et cette pensée revient. Ce n'est pas possible. Et là, je commence à imaginer, bon, on pourrait enlever les rangs sur les escaliers, rassembler tout le monde ici en bas, comme ça, comme pour cette réunion où nous sommes ici, tout le monde était serré les uns contre les autres, on entendait notre voisin qui chantait à tue-tête pour le Seigneur, c'était tellement beau. Et je me suis dit, ça, c'est formidable. Et là, au moment où cette pensée est venue dans ma tête, Dieu m'a parlé. Il me dit, si tu enlèves ces chaises vides, tu ne permettras pas à certaines personnes de vous rejoindre. Sur le moment, j'ai compris que ces chaises, en fait, elles attendaient quelqu'un, la venue de quelqu'un. C'est un peu bizarre de parler ça comme ça. Mais Dieu a prévu que ces chaises soient remplies par des personnes qui ne sont pas encore là. Et en fait, c'est comme si j'enlevais cette possibilité à Dieu. Si on remplit, ben, si on réduit les chaises, ben, il n'y a plus cet espace, il n'y a plus cette bienvenue, cette vision d'accueil pour d'autres. Et en fait, en me disant ça, en ayant cette pensée de Dieu, j'ai réalisé que c'était aussi une promesse que Dieu faisait. Un élan de foi est venu dans mon cœur, une conviction. Ouais, ces chaises vides, et Dieu va les remplir, mais c'est sûr. Et c'était vraiment... Alors, ce n'est pas pour avoir une grande église que je dis ça, mais c'est vraiment un truc qui m'est venu dans mon cœur. Il y avait aussi, avec cette vision des chaises remplies, il y avait aussi cette conviction qu'il allait le faire. Et j'ai commencé à prier pour ces chaises vides. J'ai dit, Seigneur, merci, merci pour ces gens qui vont nous rejoindre. Mais à ce moment-là, juste avant que j'ai eu cette vision de Dieu, il y a eu cette confrontation de vision humaine et mes petites stratégies. Hein, je voulais un peu m'arranger. Les plans de Dieu ne sont pas mes plans, clairement pas. Et là, j'entends la voix de Dieu qui pourrait me dire, comme il l'a dit à ses disciples, « Pourquoi raisonnes-tu ainsi dans ton cœur, Jean de peu de foi ?» C'était ça, en fait. J'ai réalisé que Dieu voulait m'encourager à avoir la vision de considérer le tout petit peu que nous étions, car Dieu voulait en faire quelque chose de grand. C'est la même chose pour ce grain de moutarde qui va devenir un arbre. Et cet exemple nous fait comprendre qu'on des fois on a des bonnes idées, hein, humaines, inspirées, avec des perspectives humaines, mais en fait ce n'est pas les pensées de Dieu forcément. Et des fois, on peut être un empêchement au plan de Dieu. Et de prendre conscience de ça, ça m'a en fait effrayée. Et je me suis dit, oh, waouh, j'aurais pu, si j'avais mis en place mon petit plan comme ça stratégique, empêcher ce que Dieu avait envie de faire. Et Dieu voulait me montrer, mais non, je vais m'occuper de ces chaises vides. Paul a dit ceci à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens 4. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. » Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne comprennent rien à ce qui est de Dieu. C'était un petit peu mon cas. Hein. Je dois dire que là, j'étais vraiment à l'ouest de ce que Dieu voulait. À cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de leur endurcissement de leur cœur. Et Dieu aimerait nous faire comprendre, prendre conscience que nos habitudes de vie, comme les disciples, ils avaient cette habitude d'éducation des enfants, ben, ils avaient aussi cette vision-là. Nos peurs, moi, par rapport à ces chaises vides, j'étais un petit peu stressée, quoi. L'incrédulité de Thomas, par exemple, face à Jésus qui est ressuscité. Nos logiques humaines sont des influences qui, des fois, nous égarent dans des raisonnements loin des réalités spirituelles. Notre culture religieuse peut aussi assombrir les yeux de nos cœurs et les endurcir. Comme pour Saul de Tarse. Alors lui, c'est l'extrême, hein. Saul était un pharisien, mais fervent, il aimait l'Éternel de tout son cœur. Mais pour protéger ses convictions juives, il a commencé à se dire, mais alors ces chrétiens qui sont là, il faut qu'on les extermine. Et il est devenu un meurtrier. Et j'aimerais qu'on lise juste un petit bout de sa vie pour se rendre compte de ce qui s'est passé pour lui, dans Actes 9. Je vais juste vous le raconter. Comme il était en chemin, il s'approche de Damas. Tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, mais Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et là, il a été stoppé dans ce qu'il pensait faire juste. Des fois, on pense les choses faire les choses justes, mais là, ben, Saul a été stoppé. Il répond « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Ben, dis donc. Et plus loin, Saul se relève. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Il a été conduit ensuite à Damas. Et il resta 3 jours, hein, quand même, sans voir. Donc, on ne peut pas dire « Ouais, c'est le soleil qui a un petit peu brûlé sa rétine » ou je ne sais pas. 3 jours sans voir, ni manger, ni boire, parce qu'il était en prière. Et parallèlement, Ananias a été appelé par Dieu pour rejoindre Saul. Et Saul connaissait de réputation, Ananias connaît Saul de réputation, c'est un tueur de chrétiens, il s'est dit « Ouh, mais si je vais vers lui pour prier comme tu me le demandes, Seigneur, je risque de ma vie. » Ananias a quand même obéi, heureusement. Ananias partit, et une fois entré dans la maison, il posa la main sur Saul. « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux. Il retrouva la vue, il se leva et fut baptisé. Dieu l'a guéri de son aveuglement, je pense physique, mais aussi du cœur, pour lui révéler que Jésus était vraiment le Messie, qui pouvait lui confier toute sa vie et le servir. Et ce Saul est venu Paul, l'apôtre Paul qu'on connaît bien. La bonne nouvelle, c'est qu'en recevant le Saint-Esprit dans nos vies, comme on voit, Paul, Saul, a reçu cette capacité de voir ce qui était invisible, le monde naturel. Eh bien, Dieu veut nous donner cette capacité aussi de voir ces réalités spirituelles, ce qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, mais qu'on voit avec les yeux de nos cœurs. Il nous dit dans 1 Corinthiens 2, il y a des choses que les yeux ne voient pas. Donc Dieu est au courant qu'il y a des choses spirituelles, il nous le dit. Il y a des choses que vous ne voyez pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'en ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Et c'est à nous que Dieu les fait connaître par l'Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité de voir. En effet, le Saint-Esprit connaît tout, même les secrets les plus profonds. Et le verset 11 qui finit, « De même, les secrets de Dieu, qui les connaît ? Personne sauf l'Esprit de Dieu. » Plus nous demeurons dans la présence du Saint-Esprit, plus il habite en nous, plus nous devenons sensibles à son Esprit, et il vient illuminer les yeux de nos cœurs. Il nous donne un esprit de sagesse, de révélation. Le Saint-Esprit veut opérer comme nous, en nous, comme un laser. Certaines personnes ont des problèmes de myopie très importantes et ils vont se faire opérer des yeux. Et c'est la même chose. Le Saint-Esprit veut enlever ce qui trouble notre vue pour qu'on puisse voir ce que lui, il veut nous montrer. Il veut nous donner de marcher avec les yeux de la foi et non avec une vue humaine. Marc 11 nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et j'aimerais monter d'un niveau par rapport à ce verset, un niveau de foi supérieur. Prenons ce verset dans Philippiens 4, 6, où il est dit, la reconnaissance, ne vous inquiétez de rien, pardon, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. La reconnaissance est une clé pour entrer dans l'exaucement. Je dirais même que d'arriver à être reconnaissant avant de voir l'accomplissement de ce qu'on a demandé à Dieu, ça démontre un niveau de foi supérieur, un niveau de confiance extraordinaire. Et ce niveau de confiance, c'est le niveau de confiance que Jésus avait. quand il priait. J'ai envie de le reformuler. La reconnaissance, avant même d'avoir vu l'exaucement, est une manifestation d'un niveau de foi qui nous conduit dans l'extraordinaire. Dans Jean 11, on voit que Jésus a prié avant de prier, donc a prié son Père. Père, je te rends grâce, donc il est reconnaissant d'avance, de ce que tu m'as exaucé. Et cette prière, il l'a faite juste avant même que Jésus, que Lazare soit ressuscité. C'est incroyable. C'est comme une prière de reconnaissance, de confiance qu'il fait à Dieu. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais il n'avait pas encore prié pour Lazare. Hein. Et dans la multiplication des pains et des deux poissons, il a pris les pains, il les a exposés à Dieu, il a remercié, il a été reconnaissant du petit peu de nourriture qu'il avait là. Mais il savait que ça allait ouvrir sur un exaucement et une multiplication. Il était avec un cœur reconnaissant, rempli de foi. Je crois que Dieu, il aimerait porter notre attention sur ce détail. Du petit peu, Jésus est reconnaissant. Il n'a pas une vision de mépris par rapport à ce peu de nourriture. Il aurait pu dire quoi ? Mais c'est quoi ces 5 points là, ces 5 pains, ces 2 poissons ? Enfin, vous avez vu, il y a quand même 5000 hommes. Après, il y a des femmes et des enfants. Pas du tout. Il n'avait pas de mépris pour le petit peu. Et la Bible nous dit, ne méprise pas les petits commencements. Le mépris, c'est vraiment un état d'esprit qui nous environne énormément. Je ne sais pas si vous le voyez, sur votre place de travail, souvent il y a de la critique, de la comparaison, de l'orgueil. Et c'est vraiment un état d'esprit qui détruit et qui enferme et qui nous aveugle. Une petite graine de mépris dans nos cœurs nous empêche d'imaginer que Dieu a bien assez, que Dieu est puissant, que Dieu est grand. Parce qu'on ne voit que ce qui est peu, mais on ne voit pas ce qu'il peut en devenir. Le mépris aveugle les yeux de nos cœurs. Et ce n'est pas les valeurs du royaume de Dieu et de la culture de l'honneur. Non. Et c'est Jésus, il n'avait pas du tout ce mépris-là. Et je crois qu'on est invité à venir avec ce que j'ai, ce que tu as, juste d'être reconnaissant, d'avoir de l'assurance dans notre foi et d'attendre que Jésus va accomplir quelque chose de grand. Je crois que Dieu, il nous encourage à renoncer à nos regards méprisants sur les choses insignifiantes parfois, parce qu'il veut en faire quelque chose de grand. 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 20, nous dit « Soyez toujours joyeux, exprimez justement votre reconnaissance en toutes circonstances, même quand ça ne va pas, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Et le verset d'après, c'est « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Je crois que la reconnaissance a un effet direct sur l'action du Saint-Esprit. Si on est méprisant, on éteint le Saint-Esprit. La reconnaissance libère la place, le potentiel, notre foi. C'est comme une dynamite pour notre foi. Et la reconnaissance est l'antidote face au mépris qui bloque et qui assombrit nos cœurs. Dieu veut nous toucher pour ouvrir nos cœurs, nos yeux spirituels, pour qu'on puisse saisir le potentiel du petit peu et la puissance de Dieu qui est capable de faire de grandes choses. À partir d'une petite graine, à partir d'un peu de ton temps, à partir d'un peu de ton aide, à partir d'un peu de ton don, à partir d'un peu de ton amour, de ta foi, si tu les places dans le Seigneur, il y a le potentiel d'une multiplication, d'une fructification, d'une croissance et même au-delà. Christ agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire bien plus. C'est une promesse. Sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et j'aimerais vous encourager à vous attendre à de grandes choses avec Dieu. Et pour conclure, j'aimerais qu'on puisse revenir au sacrifice de Jésus et à sa résurrection. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est ressuscité ? Il est sorti du tombeau. La première chose qu'il a fait, c'est rencontrer ses disciples. Il en a rencontré d'abord deux qui étaient en chemin, sur un chemin qui menait à Emmaüs. Les disciples étaient alors profondément tristes, désespérés. Ils ne comprenaient rien, ils se posaient plein de questions. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? On a cru qu'il nous libérerait. Ils étaient déprimés. Et là, Jésus les rejoint. Il voit qu'ils sont tristes. Mais leurs yeux, il est dit dans le texte, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc ils ont marché avec Jésus sans savoir que c'était Jésus. Malgré les enseignements qu'ils ont reçus, malgré la proximité qu'ils ont eue avec Jésus, ils ne l'ont pas reconnu visuellement, mais ils ne l'ont aussi pas reconnu dans l'ouïe, quoi. Je veux dire, tu reconnais la voix de celui qui t'a parlé pendant des années, non ? C'est fou. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient aveuglés par le découragement et par des émotions tristes de tristesse. Ça a aveuglé leur cœur. Parfois, je crois qu'on peut se reconnaître comme les disciples. Des fois, notre déception, notre découragement, notre tristesse crient plus fort que notre foi. Alors que Jésus, il est des fois aussi à côté de nous. On se retrouve dans la même situation. Donc Jésus est avec ses deux disciples et il va partager un repas avec. Le jour baisse, le soir approche. Alors, ils entrent dans le village pour demeurer avec eux. Ils se sont mis à table ensemble. Il a pris le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le donna. Et à ce moment-là, les yeux vont s'ouvrir et ils reconnurent Jésus. Au même moment, des écailles tombèrent de leurs yeux et ils reconnurent. Et là, voilà, Jésus a disparu. C'était le fin moment pour le reconnaître. Et ce qui est fort dans ce repas, c'est que c'est au moment même quand Jésus a pris le pain et qu'il l'a rompu, c'est comme si c'était l'image de son corps brisé à la croix. Un voile, il y a eu le voile dans le temple qui s'est déchiré aussi, quand Jésus a été crucifié. Un voile sur les yeux de leur cœur, c'est comme bam, déchiré. Et leurs yeux se sont ouverts. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont reconnu Jésus. Et je crois que Jésus, aujourd'hui, il aimerait déchirer les voiles qui, des fois, empêche qu'on puisse reconnaître, avoir la vision comme lui, il a la vision. J'aimerais inviter juste un musicien à venir, faire un fond musical pour la conclusion. Et pour répondre à ce message aujourd'hui, je trouverais que ça faisait du sens de pouvoir, comme les disciples, prendre la Sainte Cène ensemble. Où on se souvient que Jésus s'est sacrifié par amour pour nous, que son corps a été meurtri et que son sang couvre nos péchés, que nos maladies, il les a pris, il nous délivre et il nous touche dans notre aveuglement. En prenant le pain et le jus de raisin, approprions-nous le salut, la guérison, la délivrance que Jésus a acquise. Dieu veut manifester sa puissance ce matin. En touchant notre aveuglement spirituel, qu'on laisse tomber le voile, qu'on puisse donner à Dieu nos peurs, notre culture qui parfois n'est pas conforme au royaume de Dieu, nos schémas religieux, notre orgueil, nos faux raisonnements, notre logique humaine, nos doutes, le mépris, nos blessures émotionnelles, tous ces fils qui assombrissent finalement notre vision et qui endurcissent notre cœur. Je crois que ce matin, Dieu veut faire un miracle alors qu'on vient simplement dans sa présence, en toute simplicité. Il n'y a pas besoin de porter de masque, on peut juste dire à Dieu, mais là, oui, tu mets le doigt sur quelque chose ce matin et je sais que c'est un filtre, je sais que c'est un voile sur mon cœur et je n'arrive pas à voir ce que toi tu veux me dire dans telle situation, j'arrive pas à avancer avec toi dans ma marche. Je crois que Dieu veut toucher nos cœurs par son amour ce matin. Par le Saint-Esprit veut donner une dimension nouvelle, une profondeur, une perspective différente. Alors que tu reconnais ce qui t'aveugle, je t'invite à y renoncer ce matin. Dieu veut te surprendre que quand tu liras la Bible, tu diras « Mais oh, ça, ça me concerne. Oh, alors là, je ne l'avais pas vu comme ça. » Il veut aussi t'encourager dans ce que tu pries, pour que tu sois avec cette joie et cette reconnaissance, plus sous le poids du problème ou cet arrière-goût de mépris. Mais en fait, j'ai rien, mais oh, puis je me lamente. Ce mépris, il est balayé. Et je crois que quand tu prieras, tu vas recevoir des promesses de la part de Dieu qui vont te propulser dans des prières de foi, des convictions. Tu auras une perception spirituelle tellement nouvelle aussi dans ta prière. Attends-toi vraiment à voir que Dieu veut faire quelque chose de ces petites graines. Il veut se manifester bien au-delà de ce que tu veux imaginer. Alors attends-toi à lui vraiment. Alors que ma sœur a eu 18 ans, il y a bien longtemps, moi j'avais 20, elle est décédée. Et ce qu'elle m'a dit avant sa mort, elle m'a dit « Diane, j'aimerais croire comme toi, mais j'arrive pas. » Et je crois qu'ici, il y a des personnes qui sont là, qui disent « Mais je vois que d'autres vivent des choses extraordinaires, qu'ils ressentent la présence de Dieu, qu'ils vivent quelque chose de fort, et moi, j'aimerais, mais je n'arrive pas. » C'est simplement qu'il y a ce voile. Peut-être qu'il y a encore des péchés, des choses que tu dois régler avec Dieu. Demander pardon. Dieu, il est là et il veut te dire « Oui, je te pardonne. » Parce que c'est ça, il est mort pour ça. Pour couvrir toutes tes erreurs, pour te pardonner, pour que ce qui se passe dans ton cœur qui est voilé puisse être dévoilé, que tu puisses vraiment réaliser que Jésus, il t'aime. Et je crois que si c'est la première fois que tu fais cette démarche dans ton cœur en disant « Ouais, là, je veux voir autrement. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux lui donner ce qu'il y a de plus précieux. Je vois l'autre vivre des choses extraordinaires et je veux l'expérimenter aussi. » Je t'invite à prier pendant le temps de Sainte Cène. On va faire venir les personnes qui prennent du jus de raisin, du pain. Mais si toi, ça te concerne, pour la première fois, tu as envie de donner ton cœur à Jésus, je t'invite à venir vers David ou Marie. Ils vont prier pour toi, pour que ce voile et que tu puisses remettre ta vie en ordre devant Dieu, que tu puisses abandonner ce qui pèse dans ton cœur et faire confiance que ta vie avec Dieu aura du sens. Ils vont pouvoir aussi te donner un sachet avec une Bible et plein d'indications, mais ça c'est d'autres détails. Mais juste que tu puisses faire cette démarche aujourd'hui, de t'approcher de Jésus, de le laisser enlever le voile sur ton cœur pour te donner sa vision des choses, sa vision spirituelle. Alors, je vous invite à avancer peut-être les tables.
Pour moment de Sainte Cène qu'on va pouvoir prendre, vous m'entendez ? Vous pouvez passer par le milieu pour venir sur les tables qui sont à gauche et à droite et ensuite repasser par l'extérieur, comme ça, ça ne fait pas trop de bouchons. Et si certaines personnes, comme Jeanne l'a dit, se sont senties interpellées parce que Jeanne a appelé puis a envie de faire cette démarche de pouvoir voir Dieu, vous pouvez vous approcher vers nous pour David et moi.
Oui. Ce que j'ai aussi à cœur de vous dire, si vous êtes d'accord, de juste prendre du pain et du jus de raisin et d'aller à votre place, pour qu'ensemble on puisse prier, se mettre devant Dieu, on va faire une prière ensemble et puis on va poursuivre le culte. Si ça va pour vous, venez seulement, servez-vous. Jésus a dit « Faites ça en mémoire de moi » et il a brisé le pain. Il a pris la coupe et il a dit « Cela est mon sang qui vous couvre ». et nettoie de vos péchés. Mon corps a été donné pour vos maladies. Toute offense a été comme prise par Jésus sur lui-même et il en est mort pour toi, à ta place. Vous êtes encore, vous êtes déjà à votre place. Laissez le Saint-Esprit vous interpeller, vous parler. En fait, Dieu veut faire une rencontre personnelle avec chacun. On est tous différents, on a tous un vécu différent et Dieu veut mettre le doigt sur quelque chose d'aujourd'hui qui vous est personnel. Il veut se révéler à vous. Il veut vous faire des promesses, vous montrer les choses autrement. Alléluia Jésus. Alléluia. Je vous laisse prendre place. On va prier. Jésus, parce que tu es mort pour moi, tu as payé le prix pour mes propres péchés, tu as pris sur toi toutes mes souffrances, mes oppressions. Et aujourd'hui, alors que je prends ce pain, ce jus de raisin, je le fais en souvenir de toi, mais je sais que ça a encore un impact aujourd'hui dans ma vie. Je m'ouvre à toi, je viens ouvrir mon cœur pour que tu puisses toucher ma culture, mes peurs, mes raisonnements, parfois l'endurcissement de mon cœur, le mépris, la religiosité, tout ce qui peut assombrir, bloquer à ce que mon discernement et ce que je peux voir par le Saint-Esprit. Ce voile qui vient parfois sur mon cœur, qui empêche de voir clair les choses, qui m'amène dans une confusion, qui m'amène dans une tristesse, dans un désarroi. Je viens vers toi sincèrement, en toute simplicité, et je viens t'abandonner ces choses. Pardon. Pardon. Pardon, parce que ça a été des protections, parfois. Mais aujourd'hui, ça ne m'est plus utile. Et je lâche. Et je te remets ces choses. J'ouvre mon cœur pour que tu puisses le guérir, le restaurer, le toucher. Et que toute forteresse de raisonnement qui ont été installées pendant des années puisse s'écrouler pour que je puisse voir clairement que j'ai du discernement, que je vois au-delà des apparences. Que la joie, la reconnaissance prennent place. Que ma foi puisse grandir. Parce qu'elle n'est plus écrasée par le poids du problème ou du mépris. Mais il y a comme une audace qui vient nouvelle. Parce que je sais que tu as des plans parfaits pour chacun d'entre nous. Que tu as des plans parfaits pour moi, pour la suite. Et si je ne règle pas aujourd'hui ces choses, je sais que ça me sera difficile d'entrer dans la suite. Alors je viens vers toi, Jésus, pour régler ça et vivre une nouvelle liberté avec toi. Amen.